Rendez-vous, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous.
Des appels au génocide.
Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain.
Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé.
Loïc Tassé est avec nous. Monsieur Tassé, bonjour.
Bonjour. T'aimerais Singapour, Benoît?
Parce que
Singapour, les gens qui font des graffitis, des choses, ils n'en vont pas en prison. Ils leur donnent des coups de canne en public dans le dos. Paf, paf, paf. Il n'y a pas de graffiti.
Alors, voler le carton pour mettre sur le tableau de bord là, pour une personne qui est handicapée, pour se stationner près d'une porte à Singapour, ça serait quoi la conséquence?
Ah, ben, je pense que ça serait quelques coups de canne dans le dos. Ça fait assez mal.
Une coupe de canne,
puis,
hein?
Ouais. Puis ça désengorge les prisons. Coûte moins cher.
Puis ça crée un marché pour les cannes.
Évidemment, on a retiré ici toutes les punitions corporelles depuis longtemps.
Ouais.
Mais je t'avoue que des fois, moi, je trouve que ça a un effet dissuasif assez fort.
Ouais. OK. La vieille bourse de Copenhague.
Je ne vais pas m'étendre dessus davantage. Non, mais Copenhague, ouais. Non, c'est terrible ce qui arrive à Copenhague. Si les gens ne savent pas encore, il y a la vieille bourse de Copenhague qui a pris feu. C'est un bâtiment qui a 4 siècles, qui était en restauration. On voit les images. Évidemment, ça rappelle immédiatement Notre-Dame de Paris. Et pour les Danois, c'est un peu leur Notre-Dame de Paris aussi. Et la flèche qu'on voit, c'est une flèche où il y a quatre queues de dragons qui s'enroulent les unes autour des autres. C'est une œuvre qui a pas son équivalent ailleurs dans le monde. On ne sait pas pourquoi ça a pris feu. Le bâtiment, la bourse n'était plus là depuis 1973. Ça servait de salle de réception. On en faisait toutes sortes d'événements. On faisait toutes sortes d'événements publics à cet endroit-là. Mais c'est d'une très, très grande tristesse.
Ben oui.
Heureusement, je ne sais pas ce qui va rester. Peut-être les façades. On a essayé de sauver des œuvres d'art qui étaient à l'intérieur. Et la ministre de la Culture a dit, écoutez... On va reconstruire. On va reconstruire. Et puis d'autres aussi ont dit on va reconstruire. Donc il y a déjà des gens qui se mobilisent pour ça, mais c'est une très, très grande tristesse.
La cathédrale Notre-Dame de Paris, hier, ça faisait 5 ans. Puis, c'est pas sûr qu'on ait connu les véritables causes de cet incendie.
On ne sait pas. On sait où ça a commencé, dans l'entretoit. Puis on sait que c'était en réparation. Exactement comme la vieille bourse de Copenhague. Elle était aussi en réparation. Est-ce qu'il y avait du feu qui couvait là-dedans? Et puis, est-ce que ça s'est mis, ça a pris feu tout d'un coup? On ne sait pas. Je pense que, heureusement, la plupart des œuvres ont été à Notre-Dame, ont échappé à l'incendie. Et puis, les murs sont restés là. Là, bon, ça a été terrible, mais ça a coûté une somme énorme pour rénover tout ça. Je sais plus combien, là, mais quelque chose d'énorme.
Alors, la compagnie Tesla met à pied 10% de ses employés à travers le monde. Est-ce que c'est un mauvais signe de la part de Elon Musk?
Ben moi, j'ai jamais trouvé qu'Elon Musk était un grand gestionnaire. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui est surtout très bon pour faire rêver les gens puis les faire investir dans ses compagnies avec toutes sortes de projets.
Tesla c'est un succès quand même.
Oui, c'est pas lui qui l'a fondé, Tesla. Puis il était pas le seul là-dedans. Mais le problème de Tesla, et c'est là le vrai problème, c'est que Tesla subit de plein fouet la concurrence des autos chinoises, des véhicules électriques chinois.
C'est bide, hein?
Et donc Tesla coupe énormément.
C'est bide,
entre autres, oui, il y en a plein d'autres. Mais c'est des autos qui ont énormément de succès, évidemment, en Chine, puis ailleurs dans le monde, qui coûtent beaucoup moins cher que les Tesla, qui sont très fiables, qui ont des belles lignes, et donc qui sont très, très vendables. Et donc, Tesla coupe, comme je disais, 10% de son effectif un peu partout, des ingénieurs, etc. Est-ce que ça va rendre les Tesla meilleurs? Je crois pas. Est-ce qu'il y avait trop de monde nécessairement chez Tesla? Je crois pas. Regarde ce qui s'est passé chez Twitter. Musk a détruit Twitter. Je pense que c'est une réaction un peu de panique que de couper autant de postes. C'est très mauvais signe, en tout cas, moi, je pense, pour Tesla, que Tesla fasse ça. Ça va peut-être faire plaisir à quelques actionnaires à court terme, mais à plus long terme, c'est très inquiétant. Et d'ailleurs, Tesla n'est pas la seule compagnie à s'inquiéter. Aux États-Unis aussi, on s'inquiète beaucoup. Mais ce qui est en train d'arriver aux États-Unis, c'est qu'il y a énormément de pressions qui se font pour que le gouvernement américain ne laisse pas rentrer des autos électriques chinoises.
Ah oui.
Et d'autres produits aussi. Ouais. Il y a des études qui sortent en disant, oui, c'est vrai, on subventionne, nous aussi, nos entreprises, etc. Mais les Chinois le feraient de 3 à 10 fois plus que nous. Mmh. Et donc, là-dessus, ben, les gens disent, on ne va pas laisser entrer ces autos-là. Ça ne fonctionne pas.
Mmh. Mais la part du gain, c'est intéressant. Tu parles d'une voiture électrique à une fraction du coût d'une Tesla, ben par oui. exemple. Ben, je sûr. Peux comprendre la tentation des gens, mais c'est tiré dans le pied pareil. Là, tu achètes un produit qui vient de la Chine. Ça aide pas les travailleurs d'ici, ça c'est clair.
Oui, mais les consommateurs, tu sais, c'est ça. Mais les consommateurs, tu sais, tu parlais des impôts tout à l'heure. Le fisc, il lâche pas les gens, hein. Il va pas chercher les gens qui sont les plus riches dans la société. Non, ça, ils peuvent envoyer leur argent dans des paradis fiscaux. Mais toi, si t'as des retards, qui vont venir te chercher. Alors, tu sais, ils vont venir te chercher pour rien du tout.
Ouais.
Mais tu sais, c'est ça. Tu dis, et puis là, tu veux dire aux gens aussi, soyez gentils, achetez des autos qui sont fabriquées ici, des choses qui sont faites ici. Il y a des choses qui marchent pas, tu sais, dans notre société. Tu sais, tu parlais des médecins. Ben oui, mais on n'a pas de rendez-vous parce que, d'après les moyennes de l'OCDE, il nous manque 12 000 médecins. On en a à peu près 24 000. Il nous en faudrait 12 000 pour atteindre la moyenne de l'OCDE. Imagine si on avait 50 % de médecins de plus. Ben, c'est évident qu'on n'aurait pas de problème de rendez-vous. Puis, il y a 30 ans, on n'avait pas de problème de rendez-vous. Maintenant, on en a parce qu'on en manque. Puis, c'est drôle, hein, mais les médecins veulent pas. Il y a beaucoup de médecins qui veulent pas qu'il y ait davantage de médecins. C'est drôle, le gouvernement parle pas de ça.
Puis, ils veulent pas être médecins de famille, ils veulent être spécialistes. Parce que c'est deux fois plus payant.
Oui, mais s'il y avait 50 % de médecins de plus, je peux t'assurer que pour avoir de la clientèle, il y en a qui seraient médecins de famille. Puis, ils seraient pas mal plus intéressés à recevoir des patients qu'ils le sont maintenant. Mmh. Parce qu'il y aurait une concurrence plus saine.
Ouais. En Russie, Loïc, il pleut.
Ah, c'est pas drôle. Il y a des inondations dans le sud-ouest de la Sibérie, le nord du Kazakhstan. Ça dure depuis des jours. Il y a des rivières qui ont 11 mètres de plus que leur niveau normal. Hey. 11 mètres. C'est des endroits qui sont pas très populeux, mais on a quand même été obligé de déplacer tout près d'1 million de personnes. Et l'eau va continuer à monter. C'est absolument horrible. Et pendant ce temps-là, tiens, il pleut au Pakistan. Tu te souviens, en 2022, il y avait des inondations épouvantables au Pakistan. Ça recommence. Il recommence à pleuvoir par là. Et en même temps, ben, on manque d'eau ailleurs dans le monde. Il n'y a pas de réchauffement climatique, cela étant dit. Ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique, n'est-ce pas, moi?
Et avant qu'on se quitte, tu veux nous parler des faux timbres chinois qui envahissent le Royaume-Uni. Ça a l'air à te faire plaisir.
C'est parce que c'est tellement aberrant. Tu sais, tu vas acheter un timbre chez le marchand, tu prends ton timbre, tu le colles sur l'enveloppe et tu l'envoies. Ouais, mais si tu fais ça, si tu as un faux timbre entre les mains, tu vas payer 5 pounds. C'est-à-dire, la personne qui va recevoir l'enveloppe va te payer et va être obligée de payer 5 pounds d'amende. Et en fait, on s'est rendu compte que tout ça vient du fait que les marchands sont pas obligés d'acheter directement du gouvernement, comme je crois c'est le cas ici. Ils peuvent acheter de grossistes, des timbres. Or, qui approvisionne ces grossistes? Des compagnies chinoises. Des compagnies chinoises qui font chaque semaine, qui produisent, 4 compagnies entre autres, qui produisent jusqu'à 4 millions de timbres par semaine et qui ont envahi comme ça le marché de la Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, les autorités disent « Non. » au gouvernement chinois, c'est pas possible que vous le sachiez pas. Vous le savez très bien ce qui se passe là. Et nous, on considère que c'est une attaque économique, que c'est une guerre économique, parce que on est obligé d'infliger des amendes aux gens, mais c'est rien 5 pounds par personne, mais au total, oui, c'est beaucoup, parce que ça veut dire qu'on enlève du pouvoir d'achat des gens. Et de toute façon, c'est illégal ce que vous faites là. Vous le savez, ça fait partie des pratiques que fait la Chine. La Chine a besoin d'argent à tout prix, de toutes sortes de manières. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit en ce moment.
Mais tu sais comment on distingue un timbre, un faux timbre chinois d'un vrai timbre anglais?
Ah ben, j'aimerais bien le savoir, parce qu'il paraît qu'ils sont impossibles à distinguer à l'œil nu.
C'est facile. Parce que le timbre chinois, faut que tu craches sur l'image du roi Charles pour qu'il colle. C'est ce qu'on m'a dit, mais pas seulement mon information. Merci, Alec. On se reparle demain.
Salut, Edmond.